poursuivons immédiatement avec Danny Dubé qu'on accueille à l'instant. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Et Marc-Antoine Godin du site athletic.com. Bonsoir, Marc-Antoine.
Bonsoir, Mario.
Dans un premier temps, on en a fait grand état et pour cause.
Bonsoir, Danny.
C'est un match important pour Shea Weber, tout près d'une année d'inactivité. Oui. Qu'est-ce que ça va signifier? Qu'est-ce que ça signifie en ce moment même dans le vestiaire? Pour le groupe de joueurs, de voir celui qui a le sait jouer un premier match avec la lettre sur son chandail, et même pour le public, là, à quoi vous attendez du groupe? Est-ce que ça va avoir un effet?
Je vais faire un drôle de parallèle, là. Mais tu sais que chez Weber, c'est le grand frère. Hein? C'est dans un vestiaire, c'est le grand frère que tout le monde rêve d'avoir.
C'est même le papa, selon certains.
Et donc... Et tu me devances. Ah. Je pense que dans le vestiaire actuellement, puis on a tous vécu ça là, avec le type de travail qu'on fait, tu pars pendant un certain temps, tu reviens à la maison, comment les enfants réagissent quand ils te voient? Comment ils se sentent? Comment l'excitation dans la maison, cette espèce d'effervescence, papa est de retour? Bien, c'est un peu ça qui va se passer dans le vestiaire. C'est un peu ça qui se passe actuellement depuis quelques jours autour de l'équipe. Il y a comme
un...
Oui, c'est une bonne vibe, vraiment.
Oui, Marc-Antoine.
Ben moi, ce que je trouve intéressant, c'est on a tellement fait un plat avec qui va jouer avec Weber quand il va être en santé, etc. Ça a été un éternel sujet de discussion. Et Claude Julien a décidé de mettre David Schlemko à sa gauche en disant je veux trouver un défenseur calme pour aider Shea. Et tout le monde dit, ah ben là, qu'est-ce que Shea Weber va apporter aux Canadiens? En quoi il va transformer l'équipe? Mais je trouve ça intéressant de voir que le Canadien, a priori, dans les premiers matchs, va d'abord se soucier de qu'il ne rate pas son entrée en matière. Ça fait un an, mais il a beau être l'homme montagne, il a beau être un athlète d'exception, un an, c'est long sans jouer.
Et puis... Moi, je t'interromps pour dire ceci. Moi, je pense pas que le match de ce soir en soi représente un problème. Je pense que ce qu'ils cherchent à faire, c'est beaucoup créer de la stabilité. Leur meilleure chance de stabilité est avec Schlemko dans un court laps de temps à cause de ses qualités de patinage, etc. Parce que tu veux avoir deux duos que tu peux mettre contre les deux meilleurs trios. Toutes les équipes dans la Ligue qui produisent actuellement, ils ont deux trios qui fonctionnent. Le Canadien a été aux prises avec ce problème-là d'avoir une seule paire de défense qu'on pouvait opposer. Puis après ça, il y avait comme un vide. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on veut... Au départ, la préoccupation des coachs, c'est ça. Maintenant, au niveau du temps de jeu, là, ça va être une autre histoire. Ça va dépendre comment ça va se passer ce soir, parce que rappelez-vous, il y a 3 jours de congé.
Oui, et au-delà de ça, parce qu'on parle de la première paire, est-ce que le temps de glace va nous révéler que la paire Schlemko-Weber sera vraiment la première paire ce soir?
Moi, je pense que ça risque d'être... Ça va être une intégration en douceur. Danny dit que ce n'est pas le premier match qui va faire foi de tout. Je suis tout à fait d'accord. Souvent, tu sais, de toute façon, il y a une adrénaline liée au premier match de retour. Puis c'est souvent dans les suivants où ça se ressent davantage. Le Canadien, le calendrier, ça tombe bien pour l'équipe, mais pour Weber aussi, d'avoir justement ces quelques journées de congé-là après le premier match. Mais je m'attends à ce que Jeff Petrie continue quand même d'avoir une bonne part du lion. Ça va être sur les unités spéciales où ça va faire une différence. Ce matin, on a vu Weber sur la première unité en avantage numérique. C'est très intéressant parce que là, j'ai l'impression que Claude Julien veut vraiment lancer sa formation en ayant ses gros guns, comme on dit, avec Weber sur la première unité, avec Drouin, Domi,
Gallagher
et Kotkaniemi. Je trouve ça très intéressant parce que potentiellement, on peut dire qu'il réunit ses meilleurs éléments.
Oui, vraiment. Et donc, on va voir comment Kotkaniemi va saisir cette opportunité-là. Mais pour continuer, et on va continuer sur Kotkaniemi, je voulais insister justement sur les unités spéciales parce que si Weber peut avoir un impact rapidement, c'est vraiment, je pense, un avantage numérique parce que son lancer n'a pas perdu de sa vélocité. Qu'est-ce que ça va amener concrètement Weber sur le jeu de puissance?
C'est là où tu as le moins besoin de timing. C'est bizarre un peu, là, de par la nature de sa job à lui, de son travail. C'est en plein ça. Alors là, ça devient la responsabilité de son entourage de le trouver puis de le trouver au bon moment. Je pense que ça, c'est un élément important à mentionner, oui.
De le trouver, lui, mais de s'assurer aussi que les autres options qui s'ouvrent quand défensive adverse triche sur Weber, qu'on puisse exploiter ces failles-là.
Est-ce qu'il va créer de l'espace pour les autres? L'attention qu'on va lui accorder?
Il faut s'y attendre. C'est normal. Il devient du jour au lendemain
la
menace principale au sein de cet avantage numérique-là. Mais je pense que ce qu'on a vu de Weber depuis son arrivée à Montréal, c'est sûr qu'il a marqué des buts importants en avantage numérique avec son lancer. Mais je trouve que le Canadien peut en faire encore davantage pour ouvrir d'autres options à part Weber. Et là, ça va être intéressant parce que selon ce qu'on a vu à l'entraînement ce matin, il va être utilisé dans le haut du cercle gauche, un petit peu comme Alexander Ovechkin. Et celui qui
qu'on a essayé avec Petrie, d'ailleurs, par
exact,
moment.
C'est ça. Ben, dans les derniers matchs, on l'a vu un peu plus souvent, il descendait davantage. Et Drouin, donc, qui continuerait finalement de passer
pivoter
la rondelle,
haut,
pivoter
oui.
Depuis la pointe. Donc ça va être intéressant de voir parce que ça va revenir entre autres à Drouin de faire en sorte que si l'option de Weber se referme, qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent autour.
Ben, quelle mission lui aussi il peut lancer parce que dans le fond, là, depuis que Jonathan a commencé à lancer, même avec des tirs poignets en haut de la zone en avantage numérique, tout à coup, le Canadien a commencé à avoir un certain succès en avantage numérique. Et pourquoi? Parce que le premier joueur qui monte sur le joueur au point d'appui, plus il est loin du centre de la patinoire, plus ça crée une brèche pour le jeu transversal.
Oui.
Que ce soit pour, dans ce cas-ci, tu faisais état, et tu fais bien de le mentionner, de Weber, mais aussi de l'autre côté. Donc là, ça va faire un jeu en croisée qui devient ouvert à la minute où on s'occupe de Jonathan. Donc, la responsabilité de Jonathan Drouin, c'est d'envoyer le message très clair que c'est pas parce que Weber est là que je lance plus.
Exactement.
C'est super important parce que ça ouvre deux options, pas seulement une.
Ouais. Bon, continuons avec la présence de Kotkaniemi. Je trouve ça intéressant également qu'on l'insère sur la première unité d'attaque massive. Quel est son mandat et à quoi... ça veut pas dire que ça va réussir du premier coup. Qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir du succès dans la mission que lui confie Claude Julien? Qu'est-ce que vous le voyez faire? Est-ce qu'on veut qu'il fabrique des jeux? Parce qu'il peut être vraiment décapant, surprenant avec certaines de ses passes. On semble vouloir le faire travailler autour du filet ou donc ça sera un rôle différent que celui de passeur. Comment voyez-vous ça?
Ben moi, Kotkaniemi, ce que j'aime de lui, c'est il a une longue portée.
Oui,
il joue avec un grand bâton. Il a un bâton qui est long.
C'est vraiment.
C'est un gars qui, et il utilise beaucoup son bâton pour déranger l'adversaire. Souvent, il va mm-hmm. checker. C'est comme une canne à pêche. Il est toujours en train de déranger l'adversaire. Donc ça, en avantage numérique, un bon bâton, ça sert à quoi? Ben, ça sert à récupérer des rondelles libres dans l'enclave. Ça sert aussi à faire des passes transversales, parce qu'on n'a pas de joueur, parce que lui, il peut protéger la rondelle. Son coup de patin n'est pas sollicité. Là. Il est mobile au coin du but, puis il peut faire des passes. Lui, il peut l'atteindre Weber de l'autre côté. Là. Là, tout à coup, là, c'est une autre option pour atteindre Weber. Si tout le monde commence à tricher, ben là, lui, en croisée, devient une option extraordinaire.
Il y a un aspect imprévisible également dans certaines de ses passes.
C'est comme ça que je le vois. Lui, pour plusieurs années à venir, je pense que c'est là qu'on va l'utiliser.
L'aspect que j'espère qu'il va améliorer en cédant la parole à Marc-Antoine, puis là, on comprend qu'il en est à sa première année, mais je reviens à ton long bâton puis sa longue portée. C'est quelque chose de gérer autant d'espace sur la glace, parce que pour ceux qui s'y opposent ou ceux qui sont ses adversaires, bien, veut pas. Plus la rondelle est près de tes patins, peut-être que c'est plus difficile d'enlever la rondelle à un Max Domi, par exemple, qu'un Kotkaniemi qui, parfois, va transporter la rondelle un bon 5 pieds en avant de lui. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je comprends.
C'est le jeu de bâton du défenseur, t'es plus accessible pour te la faire enlever. Et j'ai senti que ça, c'est quelque chose qui doit encore améliorer dans sa vitesse de dribblage avec la rondelle.
Ouais.
Marc-Antoine sur Kotkaniemi.
Oui, bien écoute, moi, à ce niveau-là, je voulais juste continuer sur l'idée de Kotkaniemi en avantage numérique.
Oui,
je sais que,
sûr.
Normalement... il s'est fait connaître, s'est fait remarquer chez les juniors. D'abord, en fait, chez les juniors, l'année dernière, en Finlande, il était avec des hommes. Mais en avantage numérique, il joue dans la position traditionnelle de Jonathan Drouin, c'est-à-dire au mur gauche. Alors, c'est de là où il gérait le trafic et il était le quart arrière de l'avantage numérique. Donc, je pense qu'à terme, il y a peut-être un petit peu de doublage entre ce qu'il fait de mieux et aussi Drouin qui, lui, est un petit peu est attaché à la première vague de l'avantage numérique. Donc, pour lui, Kotkaniemi, de se retrouver à côté du filet, c'est quelque chose de nouveau pour lui. C'est pas quelque chose avec lequel il était vraiment familier. Mais je suis tout à fait d'accord avec Danny sur le fait que la passe transversale qui part de la ligne des buts et qui revient au cercle gauche, ça peut ouvrir un monde de possibilités aux Canadiens. Et puis, ça permet en plus à Shea Weber de tirer d'un peu plus proche encore. Ça devient extrêmement intimidant. Alors, de la ligne des buts, Kotkaniemi, mais aussi, je pense qu'on peut s'attendre aussi à le voir bifurquer et revenir dans le centre de l'enclave et d'agir, comme on dit en bon français, comme bumper.
Ils n'ont pas de joueur chez le Canadien qui a son gabarit en attaque. Un gars qui est capable de contrôler la rondelle, surtout de ce côté-là. Donc, lui, c'est sûr que a priori, ça va être son ça va être sa tasse de thé. Oui, parce qu'il n'y a personne chez le Canadien qui fait ça. Depuis plusieurs années, il n'y a personne qui peut faire ça adéquatement.
En fait, depuis que David Dernier a quitté Montréal, des joueurs qui sont postés le long de la ligne des buts en avantage numérique, il y en a à peu près pas.
Oui, c'est un bon point que tu nous ramènes en nous parlant de David Dernier. Si on parle maintenant de l'aspect collectif, le Canadien a subi 4 défaites de suite. On a une semaine relativement calme. Après ça, samedi, ça repart sur les chapeaux de roue. 4 matchs en 6 jours. Alors, l'importance de gagner ce match-là ce soir avec le retour de Weber. On s'entend-tu pour dire que ça serait une défaite qui ferait plus mal que d'autres s'il perdait ce soir?
Oui, c'est sûr. C'est sûr.
Hein? Oui?
Ouais, moi, je pense que c'est un match extrêmement important pour la suite des choses. L'équipe va partir sur la route. Va avoir tout à l'heure, je reviendrai au mois de décembre parce que c'est quand même important de le mentionner. Mais au mois de novembre, l'équipe du Canadien a été... La seule qui a été pire que le Canadien en défensive, c'est celle des Sénateurs d'Ottawa. Ils ont accordé 52 buts à l'adversaire en 13 matchs. C'est énorme. Alors, eux, là, c'est sûr que le retour de Weber, ça se conjugue avec un resserrement en défensive puis une meilleure stabilité. Parce que si tu veux t'améliorer, il faut que tu crées de la stabilité. Ce qu'on cherche à faire, c'est créer de la stabilité. Si on est capable d'avoir deux paires de défense sur qui on peut compter là, avec cette stabilité-là, puis avoir quand même Jordy Benn qui a fait de l'excellent travail depuis le début de la saison sur ta troisième paire, bien là, tu peux aborder peut-être le mois de décembre un peu plus, avec un petit peu plus d'enthousiasme, en disant on tourne la page, c'est terminé, chier de retour. Mais il faudrait que ça se matérialise par une victoire ce soir, parce que à l'étranger, c'est 9 matchs en décembre. C'est 6 matchs à la maison. C'est une fois un match aller-retour là, ce week-end qui s'en vient.
Ça va être difficile de jouer au-dessus de 500, Danny.
C'est ça. Et ensuite, il y a 2 matchs aller-retour dans la série de 9 mats. Et il y a 2 fois 3 matchs en 4 soirs combinés à ces allers-retours. Donc, c'est
tout un calendrier.
Très compressé. Ça va être, donc, ça va solliciter les meilleurs joueurs. Donc, la profondeur de l'organisation, par conséquent, ou du banc du Canadien, donc 3e paire de défense, 4e trio, tout ça devient extrêmement important.
Pour reprendre l'expression de Michel Therrien, c'est un bon match pour vider le réservoir ce soir. Et,
vraiment.
C'est vrai que le calendrier va être difficile. Puis, quand tu regardes ça, les 2 derniers matchs, le discours qui est véhiculé en ce moment par Claude Julien, c'est de dire, écoutez, on vient de jouer 2 matchs à Buffalo et également contre les Bruins de Boston, où on a bien joué, mais on a perdu. Alors, c'est un petit peu, jusqu'à un certain point, là, entendons-nous, ce sont des victoires morales dans la mesure où le Canadien a joué davantage comme il l'espérait le faire. Mais à un moment donné, il faut que tu passes à la prochaine étape et dis, ben là, on est en train de replacer
nos
paramètres défensifs.
Exact.
Ça,
ouais. Ben là, il y a le temps de convertir ça en victoire. Et puis, c'est ce soir que ça se passe.
Mais moi, je veux rajouter là-dessus parce que je vais prendre la partie du coach cette fois-ci. Parce que quand tu coaches, tu sais très bien que tes paramètres pour évaluer la performance de ton équipe, c'est rarement relié au résultat. Tu es obligé de vivre avec le résultat. C'est la nature de la bête, c'est comme ça. Mais il y a des soirs où tu retournes chez vous et tu dis « on aurait mérité un meilleur sort » ou « on s'est tiré dans le pied » ou « on a fait quelque chose, ça a duré 30 secondes, ça nous a coûté le match ». Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Donc lui, son discours, c'est normal qu'auprès de nous, comme auprès de ses joueurs, qui demeurent très constructifs et positifs parce que il y a un tas de choses sur lesquelles il peut bâtir, et c'est loin d'être un cliché dans son cas. Parce que, écoute, il y a eu tellement de matchs où ils ont été horribles défensivement. Oui. Là, ils ont perdu, mais ils ont quand même resserré et fait beaucoup de bonnes choses.
Tout est loin d'être parfait au sein de l'équipe de Claude Julien. Ils se sont néanmoins accrochés à une place intéressante au classement. Oui. Ils sont encore dans le portrait. Ils occupent la 8e place dans l'Est, la dernière des équipes repêchées, avec encore beaucoup, beaucoup de matchs à disputer. On revient pour la suite de cet avant-match où des amateurs de sport. L'avant-match sera à 19h avec Danny Marc-Antoine dans quelques instants.
Marc-Antoine.
Avec Marc-Antoine Godin et Danny Dubé en direct de la passerelle du Centre Bell, quelques points, quelques sujets de conversation en rafale, messieurs. J'ai regardé un sondage que tu as soumis aux gens sur Twitter aujourd'hui, Marc-Antoine, et les gens souhaitent voir Mike Riley en uniforme. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la sélection des 6 défenseurs pour le match de ce soir de Claude Julien, mais ce que Claude Julien reproche à Mike Riley, c'est-tu d'être peureux?
Non.
Voici, je vais répondre après.
Moi, je pense que ce qui lui reproche, c'est avant tout son manque de... Son sens de la compétition n'est pas assez relevé. C'est un joueur qui est excellent quand il a la rondelle. Quand il n'a pas la rondelle, il devient extrêmement imprévisible. C'est difficile de jouer avec. Quand il a la rondelle, il n'y a pas de problème.
Il est aveuglé par la rondelle souvent comme défenseur.
Souvent.
Hein?
C'est un joueur qui n'a pas beaucoup de perspectives dans son jeu, pas beaucoup d'espèces de... la perspective.
Tu sais, sa vision périphérique.
Élargie, tout ça. Là, il a la difficulté. Alors, et il trouve qu'il ne compétitionne pas assez. Son niveau de compétition n'est pas assez élevé. Quand tu n'as pas la rondelle, tu dois être actif, aider tes coéquipiers à récupérer la rondelle, prendre des bonnes décisions, être vif d'esprit. Tous ces éléments-là, ça ne milite pas en faveur actuellement de Mike Riley.
Il y a un journaliste anglophone qui lui a posé la question à Claude justement à propos de Riley. Et je vais vous lire la réponse que j'ai traduite à ce sujet-là. Il dit « Riley doit être meilleur à défendre. Il doit être meilleur dans sa prise de décision. Ah oui. Il ne peut pas continuer à commettre des revirements avec des jeux mous. Et il le sait. On a besoin de constance de sa part. Il a le potentiel, mais tu ne peux pas avoir dans ta formation un joueur de qui tu ne sauras pas à quoi t'attendre d'un soir à l'autre. On a besoin d'avoir son bon côté et non son mauvais parce qu'autrement, ça peut tuer ton équipe. » Alors, il a été cinglant à son endroit.
Autre sujet, il y a un détenteur du trophée Hart, entre autres, José Théodore, qui écrivait dans sa chronique dans le Journal de Montréal que Price joue comme un numéro 2. Où serait le Canadien en ce moment si Price avait des statistiques semblables à celles auxquelles il nous a habitués, ou des statistiques d'un Henrik Lundqvist qui ne joue pas derrière la meilleure équipe à 9-21? Est-ce que le Canadien serait en meilleure position au classement si Price était Price?
Bien, Price a...
Êtes-vous rassuré là, dernièrement par son jeu ou encore des doutes?
Ben moi, j'aimerais voir, c'est un petit peu plus de hargne dans son jeu, je veux dire, sur la combativité.
Ça a toujours été ça le défi avec
c'est,
lui.
Et en même temps, je suis obligé de dire que quand je regarde l'équipe du Canadien, le nombre de chances de marquer, je parle pas des deux derniers matchs, mais le nombre de chances de marquer, quand tu as regardé les matchs attentivement, quand tu les as regardés, là, tu as pris le temps de regarder
qu'est-ce
les 60 minutes.
Ouais.
Tu te rends compte que quand ça dépasse 15 chances de marquer, triple A dans un match, il n'y a personne qui va jouer comme un numéro 1. Il va les arrêter sur la tête, puis à un moment donné, il va en échapper une.
OK.
C'est ça que je veux dire.
Ouais, ouais. Mais moi, il me rappelle le Carey Price du début de la saison, dans les, je te dirais, les 5 à 10 premiers matchs de la saison, où peu importe combien de buts il donnait dans un match, il faisait des arrêts, et sur les buts qu'il donnait, tu disais, il n'y avait aucune chance. À un moment donné, quand il y a eu son creux, c'est qu'en plus des buts sur lesquels il ne pouvait rien faire, il y en a qui lui étaient crédités à son compte à lui.
Ouais.
Alors là, j'ai l'impression qu'il est revenu au niveau où tu dis, il ne pouvait rien faire. Ce qu'on aimerait voir de Carey Price, c'est que même sur les tirs où tu dis, il n'y avait rien à faire,
essaye.
Il trouve le moyen de faire quelque chose pareil. C'est ça la magie qui a rendu Price spécial au
fil des
années.
Parce que tu vois l'arrêt qu'il a fait sur Ovechkin, le deuxième effort, même le troisième effort, là, in extremis.
Il l'a fait instinctivement. Il s'est garoché sur l'autre bord pour faire l'arrêt.
Ce soir-là, il avait
voir.
Tellement faim, là, ouais. Tu voyais le feu dans ses yeux. Alors ça c'est une première chose. Mais moi, je veux dire ceci, on aura l'occasion d'en reparler, là. Arrêtez de regarder les statistiques des gardiens. Moi, ce que je pense qu'on va voir de plus en plus des gardiens réussir, ça va être des gardiens qui vont avoir l'esprit du releveur au baseball. La même affaire. Le dernier pitch.
Brent
le
Fjord.
Dernier joueur à retirer. Non, mais écoute, il y a tellement de chances de marquer dans un match. Il y a tellement... Tu sais, tu regardes le pourcentage d'efficacité.
Trouves-tu que ça s'est replacé dans les deux derniers matchs par rapport à ça?
Oui.
Un peu?
En tout cas, moi, je pense que le Canadien fait tous les efforts nécessaires pour resserrer le jeu puis permettre à son gardien de faire les arrêts. Puis après ça, il y a une partie qui lui appartient.
Il y a un endroit où le Canadien doit limiter le nombre de chances de marquer. C'est celle que l'adversaire fabrique depuis l'arrière du filet. Le Canadien a de la difficulté à garder sa couverture défensive.
Épouvantable.
Quand l'adversaire attaque à partir de l'arrière du filet.
Est-ce que les défenseurs seraient trop mous?
Ah, ben écoute, en tout cas, il y en a un qui va être mou dans les estrades à soir.
Oui, la question, c'est les réponses.
Marc-Antoine Godin, Danny Dubé, merci beaucoup, les gars. Ça a été fort agréable. Merci. Martin McGuire et Danny après la pause pour l'avant-match. Les Hurricanes sont en ville. Retour de chez Weber. Bonne rencontre, tout le monde. Et à demain, 18h30. Ciao.